Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonsoir à tous. Je vous invite à feuilleter quelques pages de votre Bible. Alors, je vous les annoncer d'ici quelques instants, mais j'aimerais introduire notre méditation. Alors, pour ceux qui sont familiers et qui suivent les messages sur l'Internet, nous avons placé, il y a à peu près un an et demi, une série qui, tout simplement, était nommée « Réalité spirituelle du monde invisible ». Alors, peut-être, pour ceux qui ont suivi cela, il y a à peu près une vingtaine d'études qui fonctionnent très bien, parce que je pense qu'il y a un gros intérêt des gens pour ce monde qui est quand même méconnu. Et c'est tout simplement à travers les messages, enfin les quatre évangiles et le livre des actes, les actions miraculeuses et les actions de délivrance de Jésus, et ensuite des apôtres dans le livre des actes. Alors, nous en arrivons à la 20e étude et ce sera la conclusion. Alors justement, je voudrais enregistrer ce soir, puisque c'est un message d'évangélisation, à la fois de bien comprendre le sens de cet aspect de la Bible, parce que c'est pas quelque chose qui est caché, mais Jésus nous en parle. Jésus nous prévient des dangers, d'ailleurs, vous le savez qu'il fait souvent référence, et particulièrement dans le Notre Père, quand il nous apprendra à dire « délivre-nous du malin ». Et nous voyons que c'est une vérité qui va finalement parcourir la Bible, d'abord l'Ancien Testament, le Nouveau Testament avec la venue de Jésus, et puis également les enseignements de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et puis également les autres. Alors c'est ce que nous allons voir ce soir, ce sera un condensé de cette vingtaine d'études qui ont été faites, et je les titrerai tout simplement, c'est un peu particulier, mais l'arsenal anti-ténèbres. Voilà. Voilà, donc comme Jésus nous a dit que nous étions la lumière du monde, alors si la lumière s'obscurcit, qu'est-ce que l'on peut faire, hein? Mais justement, nous sommes là pour proclamer ce que Jésus nous enseignait, nous montrait, ce que beaucoup d'hommes malheureusement ne voient pas et ne perçoivent pas dans notre monde, qui est souvent dissimulé derrière le paravent de l'astrologie, de la magie, de l'occultisme. Et c'est vrai que les gens sont vraiment ignorants de cette dimension-là. Et pourtant, c'est une dimension que nous rencontrons tous les jours, quelque part. Le mal existe dans le monde, non? Certainement. Avec tous ces méfaits, avec tous ces drames, ça c'est certain. Et puis, également, tout ce que ce monde ténébreux peut déposer au fond des cœurs et des âmes des hommes, que ce soit le mensonge, la haine, etc., ça ne vient pas de Dieu. Donc Jésus a dénoncé ces choses. Il a dénoncé les pratiques du monde des ténèbres. Il a dénoncé celui qu'il appellera, et que Paul aussi appellera, le prince de la puissance de l'air, le prince de ce monde. Alors nous allons voir d'une manière assez sommaire, mais néanmoins, en effet, rappeler toutes ces questions, ces enseignements de Jésus, et ça nous servira naturellement de conclusion à notre étude. Alors, un premier texte que je vous propose que nous lisions dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 17. Il y a quelque chose de tout à fait particulier que je voudrais souligner brièvement, mais qui est la clé, en quelque sorte. La clé pour percevoir ce monde-là, la clé pour pouvoir y faire face, et la clé pour ceux qui en sont les victimes, ou tout simplement les captifs, la clé pour être délivrés. Alors voilà ce que nous avons dans Luc, chapitre 10, verset 17. « Les 70 disciples revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors ça, c'est intéressant parce que, en quelque sorte, Jésus, dans cet évangile de Luc, va mettre en lumière, va jeter, eh bien, une projection de lumière sur, eh bien, ce monde-là. Il y a les 70 disciples qui reviennent, que Jésus avait envoyés par toute la Palestine, en Israël, et ils sont revenus en disant, mais extraordinaire, c'est formidable, tu nous as donné des pouvoirs, pouvoir de guérir, pouvoir de ceci et cela, pouvoir de délivrer ceux qui sont captifs, puisqu'il nous est dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Et nous voyons que donc les disciples sont revenus, ils étaient là complètement transformés, ils exultaient en disant « mais c'est extraordinaire », ils sont venus donc dans la joie et lui ont dit « mais Seigneur, eh bien les démons nous sont soumis en ton nom ». Alors il y a deux choses à considérer, c'est que c'est le nom seul de Jésus qui nous permet de prendre la victoire sur le monde des ténèbres. Le nom de Jésus, ils disent la vérité, ils ont essayé, Jésus leur a dit « vous en mon nom vous chasserez les démons ». Ils ont essayé, ses disciples, et ça fonctionnait. C'est pas au nom de ceci et cela, il s'agit pas d'aller voir un guérisseur ou d'aller voir je ne sais quel occultiste ou d'un autre acabit, mais c'est le nom de Jésus qui est la puissance de délivrance. Alors, les démons sont soumis sous l'autorité du nom de Jésus. Et Jésus va leur répondre, mais je voyais Satan tomber du ciel. Et vous savez, il y a eu une victoire, nous en reparlerons, je ne vais pas trop m'étendre sur la question, sur cette première proposition, mais il y a une victoire qui a été prise dans le ciel et sur la terre, où tout pouvoir a été donné à Jésus, c'est au moment, finalement, où Jésus est monté à la croix et qu'il est ressuscité. Quand il est dit « je voyais Satan tomber du ciel », la défaite de l'ennemi de toujours, ennemi de Dieu, ennemi des hommes, eh bien, a été remportée à la croix du calvaire, nous en reparlerons d'ici quelques instants. Alors, Jésus leur dira « mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents ». Le serpent est l'emblème, si nous nous en référons à la Genèse, eh bien de la personnification matérialisée en quelque sorte eh bien de ce monde de ténèbres et de son prince, de celui qui est le chef de ce monde-là, eh bien c'est le diable, c'est Satan. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'esprit et rien ne pourra vous nuire ». Ce qui nous amène à prendre en considération que dans ce petit passage, seul le nom de Jésus, mais pas seulement le nom de Jésus, la foi dans le nom de Jésus et dans ses promesses. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez marcher sur les serpents et que vous allez écraser les scorpions. Hein. Surtout si vous n'avez pas de chaussures, vous risquez d'avoir des surprises. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça montre, c'est tout simplement, en quelque sorte, un enseignement emblématique d'une autorité supérieure au mal qui existe sur la terre, en quelque sorte. Jésus dira, mais ne vous réjouissez pas qu'il y ait des miracles et des prodiges. Réjouissez-vous plutôt que vous soyez sauvés, que vous êtes sauvés, eh bien, dans la foi en mon nom. Ça, c'est la première proposition. Retenez bien, la foi dans les promesses divines. Jésus nous a fait cette promesse et nous devons y croire. La deuxième proposition que nous avons et que je voudrais placer devant vous brièvement, ça se trouve tout simplement dans, eh bien, le livre de Paul, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, et au verset 3 et verset 4. Et là, nous allons voir qu'il y a encore un autre aspect de ce monde des ténèbres, qui est dévoilé encore, eh bien, par la vérité de l'Évangile, dans la bouche et sous la plume de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce que nous lisons ? Si notre Évangile est encore voilé, cette proclamation du salut en Jésus-Christ, de cette puissance de guérison et de délivrance, où il y a énormément de gens encore dans notre monde, bien peut-être que religieux, bien que appartenant aux faits religieux, ne connaissent pas cette dimension. L'Évangile est encore voilé. Ils ne peuvent pas le comprendre. Beaucoup de gens ont une Bible et la referment parce qu'ils se disent « non, je ne comprends pas ce que ça veut dire ». Alors si notre Évangile est encore voilé, écoutez bien, il est voilé pour ceux qui périssent. Et leur perdition est liée à une chose. Contrairement à ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est la foi qui sauve, mais c'est la crédulité qui perd. Ils sont perdus à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le refus de croire à la vérité que Dieu nous a donnée, à ses promesses. Alors, ceux qui périssent pour les incrédules, nous l'avons dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Qui est le porteur de cette appellation Dieu de ce siècle ? Sinon, le diable, décliné sous le nom de Satan, avec sa cohorte qu'on appelle les démons. Et il y a derrière tout ça toute une doctrine tout un monde avec des êtres pensants et intelligents. Et ce monde-là, eh bien, est renfermé dans une doctrine que la Bible nous, dont la Bible nous parle et nous met en garde, ce qu'on appelle la démonologie. Ça, c'est une vérité. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est l'image de Dieu, tout simplement. Alors, qu'est-ce que veut dire cette parole, tout simplement, dans ce texte de Corinthiens ? Deux choses. D'abord, la première, c'est le grand aveuglement qui inonde le monde, qui renferme le monde dans l'incrédulité d'abord, dans le doute, dans le scepticisme, dans l'athéisme même, en disant « mais Dieu n'existe pas, tout ça ce sont des histoires ». Donc, nous nous apercevons que cet évangile met en lumière Dieu et celui qui est venu pour sauver les hommes, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Et il est nommé Dieu de ce siècle, Dieu de tous les siècles. Dieu, là partout où il y a finalement des hommes, lui, il les a corrompus, il les corrompt encore, et il leur empêche, tout simplement les aveuglant, qu'ils ne voient briller, qu'ils ne voient et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne puissent saisir cette puissance de délivrance et de salut, et qu'ils ne voient briller, à travers le message de l'Évangile qui est une bonne nouvelle de salut, eh bien, tout simplement, l'Évangile, la gloire de Jésus, le salut en Jésus-Christ, que nous saisissons par la foi. On a parlé tout à l'heure de la foi qui sauve et de l'incrédulité qui perd. Et ce personnage mystérieux, ce personnage ténébreux qui agit dans l'anonymat, qui ne se fait jamais connaître, qui travaille à travers le mensonge, à travers le crime, à travers le meurtre, comme nous dit par exemple Jésus dans Jean chapitre 8, il est le père du mensonge et il ne se tient pas dans la vérité et il est meurtrier dès le commencement. Voilà ce que nous enseigne la Bible. Donc, la foi dans les promesses de Dieu, nous l'avons vu précédemment. Maintenant, c'est le grand aveuglement, où les gens disent « mais je ne peux pas croire, je crois ce que je vois ». Eh bien, d'ici que vous puissiez voir le diable face à face, vous n'êtes pas prêt de le voir. Hein. Mais par contre, il agit. Il agit dans les circonstances, il agit dans les catastrophes, il agit dans les guerres, il agit dans toutes sortes de choses, soit dans la souffrance ou soit dans la jouissance, mais il agit. Et son but, c'est de détruire, c'est de tuer l'homme. C'est de le séparer de Dieu, c'est de l'amener à être en révolte contre Dieu, en le poussant au maximum à se révolter contre Dieu. Donc, le grand aveuglement. Ce qui nécessite que si nous lisons la Bible et que nous nous mettons du côté de Dieu et que nous lisons sa parole, et que nous prions pour que Dieu nous éclaire, qu'il illumine les yeux de notre cœur, alors à ce moment-là, nous passerons de l'aveuglement, ce qui nous est arrivé, et nous passerons finalement à la connaissance, une connaissance du vrai. Une connaissance de ce qui est juste, une connaissance de l'amour de Dieu, parce que Dieu aime les hommes, et nécessité de discerner, nécessité que les écailles de nos yeux puissent tomber, qu'elles tombent, et que là nous ouvrions les yeux et que nous nous convertissions. Il nous est parlé dans Corinthiens que quand un homme se convertit, eh bien, ses yeux s'ouvrent. C'est comme s'il y avait un voile qui était ôté de dessus sa tête, et là on voit, on comprend. On ne devient pas les plus sages, les plus intelligents et les meilleurs de tous les hommes, c'est pas ça. Mais on comprend qu'il y a derrière ce monde, derrière les mystères de l'iniquité, les mystères du mal, qui posent tant de questions à nos contemporains, aujourd'hui on se dit « mais pourquoi de telles choses arrivent-elles » C'est parce qu'il y a un suggesteur, c'est parce qu'il y a celui qui aveugle, celui qui finalement garde les hommes dans les ténèbres, dans ses ténèbres à lui. Deuxième point. Nous avons une complémentarité à tout cela dans 2 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 3. Et là, nous avons encore une autre proposition qui résume finalement toute notre étude. Tous les points que je suis en train de pointer, c'est un résumé finalement de tout ce qui a été dit à travers tous ces messages qui sont là en diffusion. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'est-ce que je lis? « Toutefois, nous dit l'apôtre Paul, de même que le serpent, séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Ah, on a vu l'aveuglement, mais l'adversaire, le diable, a une stratégie particulière, enfin, une parmi bien d'autres naturellement, et Paul va rappeler les origines de cet effondrement moral et spirituel de l'humanité en remontant à la Genèse. au tout début de la création de l'homme et de la femme, et il rappelle ce que tous les Israélites savaient, ce que la Bible nous enseigne, que le serpent, je l'ai dit, figure emblématique de l'adversaire du monde des ténèbres, il séduisit Ève. Vous avez remarqué le verbe séduire. Donc c'est une fascination, c'est un détournement, c'est une exploitation de l'âme, et de la pensée, du sentiment, pour aller vers l'erreur. Et nous apercevons que, malheureusement, Ève a été séduite, tout simplement par la ruse. Il nous est dit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1er, que le serpent était l'animal le plus rusé de toute la terre. C'est peut-être ces ondulations qui nous font croire à cela, hein, qui nous font penser à cela. Oui, il y a ce qui est droit et puis ce qui est un petit peu tortueux, un petit peu beaucoup même. Hein. Et tergiversation, toutes sortes de choses. Donc, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité du message de Jésus. Parce que le message de Jésus, c'est vraiment quelque chose de simple. Même les petits-enfants peuvent le comprendre. Jésus le dira à un moment donné dans Matthieu chapitre 11, quand il dira « Mais je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Non pas que Dieu nous demande d'être infantile ou de tomber dans l'infantilisme primaire. Non, il nous demande d'avoir un cœur qui croit, un cœur simple, un cœur qui n'est pas embarrassé de préjugés, de toutes sortes de choses. C'est ça ce que Jésus nous enseigne. Alors, séduction, par la ruse, parce que c'est un mensonge qui a été proposé. Dieu a dit la vérité et l'adversaire est venu pour faire croire au mensonge. Vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux et vous aurez la connaissance du bien et du mal. Ah, ça, ça n'a pas raté. Hein. La connaissance du bien, ils l'avaient en restant dans la dépendance de Dieu, mais après ils ont connu ce que c'était le mal. Et le mal qui fait mal, qui fait mourir en quelque sorte. Donc, je crains, dira Paul. Oh, c'est à ses lecteurs, il dira, mais je crains que vos pensées ne se corrompent. C'est-à-dire, au lieu de rester dans la simplicité de la vérité, vous cherchiez toutes sortes de complexités, toutes sortes de philosophies, de théories, de théologie, par exemple, pour que vous vous égariez dans ce labyrinthe infernal, au lieu de rester simple. La foi toute simple, la foi qui croit, la foi du cœur, la foi qui saisit. C'est quelque chose d'extraordinaire tout cela. Alors, Paul souligne dans ce texte cette séduction dans nos pensées. S'il y a une séduction dans les pensées, il y a une séduction de notre cœur. Et là, l'homme, au lieu d'adorer son créateur, va adorer la créature. Il va adorer toutes sortes de choses, il va se faire des fausses religions. Il va adorer le ciel, il va adorer l'eau, il va adorer le feu, il va adorer toutes sortes de choses. Mais il va adorer l'homme, il va s'adorer lui-même, en pensant qu'il est Dieu. Ça, c'est la théorie du New Age, naturellement. Simplicité à l'égard de Christ. Séduction de la pensée, séduction du sentiment. Les fausses doctrines. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, combien d'exhortations avons-nous, et lisons-nous dans ce livre, de faire attention aux faux prophètes, aux faux docteurs, à tous ceux qui sont là en train d'amener des doctrines qui, tout en ayant l'apparence de la piété, en ayant l'apparence de l'humilité, de la sagesse, comme dans toutes les philosophies orientales, et comme dans une certaine partie du christianisme, on pense que c'est sage. Mais cette sagesse-là, nous dit Jacques, qu'elle est humaine, elle est terrestre, elle est diabolique. Faisons attention, parce que nous sommes appelés à vivre la vie de l'esprit, et non pas une vie religieuse, qui, elle, eh bien, met en avant les exaltations de l'âme, les mouvements de l'âme. Et ça, c'est quelque chose de pernicieux. C'est pour ça qu'il nous est dit séduction, attention, les fausses doctrines. Dans un autre passage, dans 2 Corinthiens, toujours, hein, c'est dans le même parti, au chapitre 11 et au verset 13, il y a quelque chose que nous découvrons. Il est parlé de ces hommes-là. Il est parlé de ces hommes-là. Et ces hommes-là, qui sont-ils? Ce sont tout simplement, s'il vous plaît, ces hommes-là, ce sont tout simplement des gens qui ne travaillent pas pour Dieu, mais qui travaillent pour l'adversaire. Consciemment ou non conscient, non conscient, le sachant ou le sachant pas. Mais toujours est-il qu'il est parlé de ces hommes-là qui sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Donc, ils servent quelque chose, ils font un service, ils travaillent pour le compte de quelqu'un, mais ils sont trompeurs. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. C'est-à-dire qu'ils ont la mine, ils ont l'apparence, comme Jésus nous le dira dans le sermon sur la montagne, quand il parlera des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais en réalité ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent avec des paroles doucereuses, des paroles onctueuses, mielleuses, en disant « mais vous savez, avec beaucoup d'humilité ». Mais quelque part, eh bien, ce sont des mensonges. Il faut le savoir. Donc, faux apôtres, ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et il nous est dit que cela n'est pas étonnant parce que l'élève ressemble au maître. Il y a un maître, c'est le diable. Alors, lui, il a sa cohorte de démons dans le monde infernal, mais il a aussi ses serviteurs sur la terre. Si je vous parle de tous ceux qui travaillent dans la magie, qui travaillent avec l'occultisme, l'astrologie, voire même l'horoscope, qui semble quelque chose d'une bonhomie tout à fait familière, mais c'est quand même quelque chose de dangereux. À travers toutes sortes d'autres, toutes autres manifestations finalement de l'occultisme, ça se décline d'une manière ou d'une autre, hein. Les bonhommes qui guérissent et tout ce que vous voulez, qui se quelquefois masquent derrière la religion. Ça, ce sont des choses, ce sont des réalités, naturellement. Alors, il nous est dit que ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, pourquoi ces serviteurs humains, ces hommes qui trafiquent, ces hommes qui font toutes sortes qui manipulent la magie? Alors, ils ressemblent à leur maître, et ils vont venir avec une attitude de lumière, vous apportant la lumière, vous apportant soi-disant la vérité avec un grand V, la lumière avec un grand L. Ce sont toutes les sectes qui sont derrière. Sectes chrétiennes ou sectes religieuses ou sectes tout simplement populaires. Il y a là quelque chose de tout à fait particulier. Ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ses ministres, ceux qui le servent aussi, se déguisent en ministres de la justice. C'est toute l'ambiguïté qu'il y a derrière. Donc nous apprenons que ce monde-là, cet être pensant et intelligent que l'on appelle l'ennemi, que l'on appelle l'adversaire, que l'on appelle Satan ou le diable, a des alliés. Il se sert des hommes, piège dans lequel Jésus n'a jamais voulu tomber. Parce que quand dans la tentation de 40 jours au désert, le diable lui est apparu. Si tu m'adores et si tu me sers, je te donnerai cette richesse, je te donnerai ces royaumes, je te donnerai cette puissance. Qu'est-ce que dit Jésus? Eh bien, il l'a refusé, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris que si on fait alliance avec l'adversaire, dans toutes sortes de confréries, des sectes, je ne cite pas de noms, dans toutes sortes de manipulations, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde des arts, que ce soit dans le monde de tout ce que vous voudrez, en quelque sorte. Le diable est capable de donner une réussite, il est capable de donner la prospérité, il est capable de vous donner la popularité. Il est capable de mettre devant vous, à genoux, le monde entier. Il a ses alliés, il y a ceux qui le servent, parce qu'ils ont fait alliance. Si tu m'adores, et si tu me sers et tu m'adores, je te donnerai tout ça. Et nous avons tous ces hommes, ces alliés de l'ennemi, qui sont en relais derrière. Et ils ne sont pas au ciel, ce ne sont pas des démons, hein, mais ils sont, moi pour moi, animés d'un esprit diabolique, d'un esprit satanique. Et croyez bien que derrière le couvert de dire du bien, de faire du bien, c'est le mal qu'ils vont répandre. C'est terrible, mais c'est une réalité. Je poursuis dans l'épître également aux Éphésiens maintenant, au chapitre 6. Vous connaissez ce texte parce que c'est certainement un des textes essentiel dans l'enseignement justement sur ce monde-là. Paul dit, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce que nous remarquons dans ce texte? D'abord la hiérarchie. La hiérarchie infernale, la hiérarchie ténébreuse, où Paul dira, par contraste, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que c'est lutter contre la chair et le sang? Eh bien, c'est tout simplement lutter contre la nature, contre le péché, contre le mal qui est dans l'homme, contre le mal que fait l'homme à son semblable, ou qu'il fait à la nature d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la chair et le sang. C'est l'aspect matériel, en quelque sorte. Et Paul dit non, non. Ne vous méprenez pas, nous n'avons pas à lutter uniquement contre ça, bien que nous ayons affaire quelquefois avec la méchanceté, avec l'injustice, etc., etc. Ça, c'est le produit de la corruption, du péché de l'homme. Il dit, mais ça, ce sont les apparences. Mais derrière ce que l'homme peut produire, finalement, eh bien là, en sang, en souffrance, en drame, en folie, en dégradation, enfin dépradation de ce que vous voudrez, dénaturation, on pourrait dire, ou déformation de la création de Dieu, c'est une chose. Mais il dira « mais », et le « mais » est très important, « mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Voilà. Derrière des autorités de destruction, il y a des puissances. Moi, pour moi, derrière la guerre, derrière un crime, derrière même un suicide, il y a des puissances de suggestion qui volent et qui tentent ou qui, eh bien, œuvrent pour détruire la création de Dieu, la créature de Dieu. À travers un simple mensonge, à travers une simple séduction, à travers tout ce que nous pouvons connaître qui porte le nom de mal, qui porte le nom de destruction. Même le livre de Job nous montre que quelquefois derrière les catastrophes, même si ça s'explique scientifiquement, eh bien, il peut y avoir derrière, finalement, eh bien, une main invisible, une main malveillante, une main diabolique pour emmener des milliers de personnes à la mort. Un tremblement de terre, un volcan, un tsunami et tout ce que vous voudrez. Ouais. Alors, bien sûr, il y a la faute de l'homme, probablement, quand il se met à découvert, je veux dire, dans des situations où il ne faudrait pas, il faudrait plutôt qu'il se protège. Mais comme l'homme est en quelque sorte aveugle, mais il ne voit pas tout ça. C'est son profit qui va l'amener peut-être à se mettre en exposition dans des situations, dans des cas ou dans des situations géographiques qui sont dangereuses. Mais derrière, le livre de Job nous le dit, une main invisible, un défi qui est lancé finalement à Dieu sur ses créatures. Ou quelquefois, eh bien, la tête des hommes ou voire même des centaines et des milliers d'hommes, est mise à prix par l'adversaire, en quelque sorte. Ce sont des dominations, ce sont des autorités, ce sont les princes de ce monde de ténèbres. Il a été dit, et je pense qu'il doit y avoir une réalité, puisque nous avons eu les fêtes, avant la guerre de 40-45, les gourous et tous les moines du Tibet ont déclaré à un moment donné que les esprits avaient quitté justement leur région du Tibet et toute cette région qui est particulièrement prospère dans l'occultisme et toutes ces sciences ténébreuses. Ils ont déclaré, ils les ont quittés. Ben, vous savez, ils les ont quittés pour quelque temps, pour faire ce qui s'est passé en Europe et dans le monde entier, Seconde Guerre mondiale, avec des abominations dont nous pouvions, qui fait vaciller l'intelligence humaine. Et il y a encore des régions aujourd'hui où il y a des choses abominables qui se produisent, mais il faut dire que les hommes tirent le diable par la queue. Et je peux vous dire qu'il répond. Mais le but, c'est pas de sauver. Le but, c'est de perdre, c'est de détruire. C'est de, finalement, eh bien, amener l'enfer sur la terre. Il y en a qui l'ont connu, l'enfer sur la terre. Parce qu'il y a des correspondants. Ce que je dis, c'est très grave, quelque part. Mais c'est pourtant vrai. Vous savez, derrière des régimes comme on a connu, ce soit en Russie, que ce soit en Chine, où l'a eu ces grands dictateurs, ou même en Europe, mais derrière, il y avait des puissances, Il y avait une dimension satanique d'occultisme, d'adoration de Satan, ce qu'on appelle le satanisme. Ils n'ont pas travaillé comme ça, ils ne travaillaient pas tout seuls. Alors derrière, bien sûr, un succès fulgurant, les gens disent « mais qu'est-ce que l'on peut faire ?» Terrible, hein ? Écoutez bien, « domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes, qui vont déferler sur la terre. » Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse ? Il nous est dit que le puits de la Bible a été ouvert à un moment donné, et à travers l'image des sauterelles et des scorpions, il nous est dit que finalement ils ont envahi le monde entier. Ça, c'est encore un temps à venir. Mais c'est pourtant des réalités, parfois. C'est par séquence dans notre monde. Mais la Bible nous dit que finalement, eh bien, des esprits méchants, venant des lieux célestes, pour dévaster la création de Dieu et la créature de Dieu. Alors, Paul va donner finalement, eh bien, une réponse à tout cela. Il va donner, on pourrait dire, un pare-feu. Il va donner l'antidote. Il dira, mais c'est pourquoi ? Prenez toutes les armes de Dieu. Alors on va les voir rapidement, hein, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme et pas être emporté comme ça, à un moment ou à un autre, de succomber, de perdre la foi, nous pouvons dire. Alors il y en a qui vont pas la perdre puisqu'ils l'ont jamais eu. Mais toujours est-il qu'ils vont être emportés comme le reste des autres. Les armes de Dieu et de pouvoir résister. Qu'est-ce qui nous permet de tenir debout dans les épreuves, dans la persécution, dans les tribulations ? C'est parce que nous avons foi en Dieu qui nous a fait des promesses. Et ces promesses nous nourrissent. Elles nous fortifient. Et il est dit, mais tenez donc ferme. Soit on s'affaisse, soit on baisse les bras, on s'en va dans le découragement et la lassitude. Ou alors à ce moment-là, on tient ferme. On se revêt d'une armure, comme Paul nous l'enseigne. Prenez donc, tout simplement, la vérité pour ceinture. Si vous avez l'amour de la vérité, eh bien Dieu vous gardera au moment où le mensonge va déferler à grande échelle sur le monde. Si vous avez l'amour de la vérité, autrement Dieu nous envoie une puissance d'égarement parce que nous n'aimons pas la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, la vérité et la justice, la rectitude de cœur, la droiture, l'honnêteté. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Parce que nous sommes chrétiens, eh bien nous aimons finalement celui qui nous a sauvés. Et nous avons du zèle, nous n'avons pas à mettre notre drapeau de chrétien dans notre dos et le cacher. Nous disons devant tout le monde que nous n'avons pas peur de Jésus, que nous n'avons pas peur de montrer notre foi. Paul le dira, je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance de salut pour le quiconque croit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est une arme défensive. Le bouclier, c'est ce qui protège chez les guerriers l'abdomen, le cœur, quelquefois la tête quand vous le relevez. Le bouclier de la foi, devant, il nous est dit, devant lequel viendra s'éteindre tous les traits enflammés du malin. Peut-être nous connaissons parfois combien nous sommes criblés dans nos pensées, dans nos sentiments. Nous passons par le doute affreux, nous passons par toutes sortes de chaud et de froid, nous pourrions dire. Mais alors à ce moment-là, il faut lever le bouclier de la foi en disant non. Et vous verrez que vous allez être vainqueur, que vous triompherez. Par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. N'hésitons pas, nous, en tant que chrétiens, de dire que nous sommes sauvés et que nous sommes sauvés pour l'éternité. Et que personne ne nous fera finalement reculer en arrière. Faut pas avoir peur. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix, c'est Jésus qui nous a pardonné nos péchés. N'ayons pas peur de le dire et de l'affirmer quand les choses sont nécessaires. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est ce que nous faisons ce soir. Eh bien, ce que vous entendez, c'est une épée de l'esprit. C'est une arme offensive, l'épée. Pas pour se défendre, mais pour aller finalement au combat. Ça, c'est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est la respiration de l'âme d'un homme. Respiration de l'âme d'un chrétien. La prière. Alors, on a parlé de la hiérarchie, on vient de le dire. Elle est dénoncée, et les armes offensives et défensives. Je vais bientôt terminer. Colossiens maintenant, si vous voulez, encore un avant... Enfin, disons, on va regarder cela. Colossiens, il nous est donné aussi eh bien, un autre aspect eh bien, de l'arsenal anti-ténèbres, si je peux m'exprimer de cette manière. Colossiens chapitre 2, verset 15. Écoutez bien. Et ça, c'est la foi. C'est ce que Jésus a accompli. Il nous est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout est dit à travers ces quelques mots dans ce verset. On vient de parler de domination et d'autorité. Eh bien, qu'est-ce que la Bible nous dit sur ces dominations et ces autorités? C'est que Jésus les a livrées publiquement. Et quand on dit publiquement, c'est tout le côté historique de la passion de Christ. C'est-à-dire qu'il a été élevé sur une croix. Il est mort comme tous les hommes, bien qu'il soit Dieu, mais il est mort aux yeux de tous, à travers tous les temps, tous les siècles. Jésus reste toujours celui qui a été crucifié. C'est vrai, avec un message, si vous croyez en moi, vous êtes sauvés. Vos péchés sont pardonnés et vous avez la vie éternelle. Publiquement, les bras écartés, sur une colline, montés, finalement sur les sommets du monde. Et 2000 ans après, eh bien, si on parle plus de certains grands hommes qui ont passé, qui ont traversé l'histoire, on parle encore, et on parlera jamais autant, et toujours de plus en plus, de ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire. Écoutez, il a dépouillé. Qu'est-ce que ça veut dire dépouiller? Ils sont nus, les autorités. Elles sont dévoilées. Elles ont été vaincues, piétinées, écrasées, anéanties. Les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement, en spectacle, pour dire que Jésus a triomphé par la résurrection. Mort pour les hommes, mais ressuscité. Le tombeau et la mort n'ont pas pu retenir Jésus, finalement, dans la terre. Ouais. En triomphant d'elle par la croix. Il n'y a que la croix. La croix, c'est un symbole. C'est pas un symbole pour se prosterner devant. Non. C'est simplement cet instrument de torture abominable par lequel Jésus est passé pour nous dire et nous livrer ce message qu'il est mort à ma place, qu'il est mort à votre place, qu'il est mort à ta place. Et quand on sait que quelqu'un a donné sa vie pour que nous puissions nous vivre, il est mort pour que je vive, à ce moment-là, il ne peut y avoir qu'une reconnaissance éternelle. Ça ne peut pas être autrement. Triomphant d'elle par la croix, un triomphe. Et je finis par ce que nous dit, alors là vous avez remarqué qu'on a progressé un petit peu dans les pages de notre Bible, dans les premiers épîtres de Pierre. Premier épître de Pierre, au chapitre 5, et là c'est un texte que vous connaissez tous, quelquefois qui nous sert de pare-feu, qui nous sert de bouclier, qui nous sert d'épée. Ce sont les armes de Dieu. Écoutez, 5 verset 8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors il y a beaucoup de choses hein, qui sont rassemblées dans cet unique verset. Nous avons parlé précédemment du triomphe de la rédemption à la croix du calvaire, où Jésus a pris la victoire complète et totale. C'est sa part à lui. Mais la part à nous, quelle est-elle? D'abord, la sobriété dans la vie. Qu'est-ce que c'est la sobriété? Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas consommer ce que Dieu a créé pour notre bien. Il y a des gens qui disent, moi, la sobriété, c'est l'ascétisme. C'est tout simplement, eh bien là, de me renfermer, je ne vis plus, je ne respire plus, voilà, je suis mort. Quand il nous est dit qu'on est mort au monde, c'est pas ce que ça veut dire, hein. Pas du tout. La sobriété, c'est de pouvoir consommer de tout en remerciant le Seigneur, en le bénissant, que ce que nous recevons, ce sont des bonnes choses, pour que nous puissions véritablement, eh bien, être des êtres bénissants. Bénissant le Seigneur. Soyez sobres. Alors, la sobriété, elle va dans tous les domaines. Que ce soit la nourriture, que ce soit la boisson, que ce soit n'importe quoi. Soyez équilibrés. Ok? Excusez-moi, hein, je parle anglais maintenant. Alors, sobre. Veillez. Qu'est-ce que c'est qu'une sentinelle? Qu'est-ce que c'est qu'un veilleur? C'est quelqu'un qui est aux aguets. Le monde dort. Quelquefois, les enfants de Dieu, ils dorment. Et ils ne voient pas les dangers arriver. Vous savez comment il fait le chat, hein? Un œil. Enfin, je sais plus lequel, mais en tous les cas, il veille. Et s'il y a une petite souris qui passe par là, je peux vous dire qu'elle va pas passer un mauvais quart d'heure, hein? Eh bien, nous devons être veillants. Et priant. Veillant et priant. Donc, la sobriété, l'équilibre, la vigilance, la prudence. Parce que la suite nous dit qu'il y a un danger. Et ce danger, il est dissimulé. Il est caché. Mais quelquefois, il peut se montrer face à face, votre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant. Alors, vous savez que dans le livre de la Genèse, et je vous en ai parlé tout à l'heure, la première séduction c'était le serpent. Rusé, se montre pas, il ne se dissimule. Il travaille dans l'anonymat, le serpent. Voilà, pour prendre ses proies. Mais le lion, dans un premier temps, il est tapi dans les herbes, dans les hautes herbes. Il regarde, il voit un petit peu quel animal pourrait être vieux ou blessé pour sauter dessus et le dévorer. Pour être finalement, eh bien là, s'en emparer. Mais il est question du lion rugissant. Alors un lion qui rugit, eh bien, c'est déjà une première mort. Parce que le lion est un animal, c'est le roi des animaux, et ne serait-ce que son rugissement est déjà produit une terreur. Le rugissement du lion a pour effet de terroriser ses proies. Et la proie, quand elle est terrorisée, elle est complètement dans l'impossibilité de se défendre. C'est ça, hein? Vous savez, les nouvelles armes de guerre, la Rafale et autres, et puis toutes les armes destructives, vous savez que quand... On l'a vu par exemple en Irak ou des choses comme ça. Avant la guerre, quelques heures avant la guerre, ils font en sorte des bombardements intensifs avec un bruit qui est surmultiplié pour terroriser les populations. Vous l'avez vu, ils coupent l'électricité et tout, il n'y a plus rien du tout. Hein. Ça c'est assez... C'est exactement la même chose, la tactique qu'ils ont prise dans la tactique du lion. Le lion à un moment donné, il est tapi dans l'herbe, il se lève, il bondit, il rugit. Et la pauvre gazelle, alors à ce moment-là, elle est terrorisée, elle est tellement affolée, elle est dans un état de stress terrible, et elle va se faire dévorer à un moment ou à un autre. Eh bien, le diable, c'est ça. Soit il est le serpent silencieux, il passe, on ne sait pas où il est, ou alors il est comme le lion rugissant à un moment ou à un autre. Vous savez, quand le diable ne peut pas nous avoir par la ruse, il va nous avoir par une attaque frontale. Et là, c'est une autre façon, c'est une autre technique, ce sont ses ruses. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. On en a parlé, de la foi, le bouclier de la foi, une foi ferme. Je ne capitulerai pas, je ne baisserai pas, je sais que j'ai un ennemi, je ne le vois pas, mais je sais, parce que j'en ai les effets. Ça vous est arrivé de passer quelques épreuves spirituelles, par des tentations, par toutes sortes de choses? Quelquefois ça nous rend malade. Ça nous met dans la dépression, ça nous met dans l'angoisse, ça peut nous amener quelquefois, ou soit dans l'exaltation, où là on perd la tête complètement, on est tellement parti dans un autre monde. Résistez-lui avec une foi ferme, savoir dire oui et savoir dire non quand on a discerné le danger, sachant voilà, que les mêmes souffrances, ça c'est un encouragement pour les chrétiens qui vivaient à cette époque, et qui peut être un encouragement pour nous. Ça c'est la part de l'homme, la sobriété, la vigilance, la résistance. Et il nous est dit quelque chose, c'est qu'au verset 10 de notre texte, et le Dieu de toute grâce, parce que c'est un Dieu d'amour. À la place du mot grâce, je mets le mot amour, parce qu'il nous aime. Il nous aime tel que nous sommes, malgré nos fautes, parce qu'il nous pardonne nos fautes si nous nous repentons. Alors, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ? Vous avez été appelé en Jésus-Christ ou vous avez été appelé au centre évangélique? Vous avez été appelé à une religion, on a été appelé en Jésus-Christ. À sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et le produit, le fruit de cette position, de cette fermeté, de cette résistance, de cette capacité à endurer, eh bien, c'est le Seigneur qui va le faire. C'est lui qui va le faire devant l'ennemi. Devant notre ennemi. C'est la victoire totale. Il fera en sorte que nous soyons victorieux totalement, entièrement, sur le monde du mal et sur le monde de celui qui préside précisément à notre humanité, à cette humanité qui est sur la terre. Et on comprend que Jésus a dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Vous avez compris? Parce que pour connaître tout ça, il faut connaître la Bible, il faut connaître le message de Jésus, il faut connaître l'Évangile qui est toujours et qui demeure une bonne nouvelle. Alors dans l'arsenal anti-ténèbres, qu'est-ce que nous avons? Je le répète et je finis, la foi. Seigneur, augmente-nous la foi s'il te plaît Jésus. Pour les choses de cette terre, mais avant tout pour les choses de ce monde invisible pour moi. Seigneur, permets que j'aie de la perspicacité spirituelle, parce que je dois faire la différence entre la vérité et l'erreur. Et la Bible me parle de la vérité. Elle me dit la vérité, la Bible. Attention aux faux prophètes. Attention aux bonimenteurs, religieux et autres. Attention aux fausses doctrines. Restons sur la parole de Dieu. Et puis méfions-nous parce que le monde est interpénétré avec des espions qui sont des hommes de chair et de sang comme nous, avec leur bonne mine, avec leur approche quelquefois sympathique, avec beaucoup de boniment, une capacité oratoire, de l'éloquence pour parler, pour finalement séduire les gens. Ce sont les alliés, on en a parlé tout à l'heure, les alliés de l'adversaire. Et puis, prenons les armes de Dieu comme les soldats qui vont en guerre. Vous savez, un soldat, on ne va pas lui dire maintenant, tu quittes ton travail et puis tu vas sur le front. On va le préparer, il va y avoir un équipement, il va y avoir un habillement. On va lui demander, on va lui donner tout ce qui est nécessaire pour se défendre, pour garder, pour protéger sa vie, naturellement. Ça, c'est un équipement, ce sont les armes de Dieu. Et puis, nous n'oublions pas que, finalement, la victoire sur l'adversaire, c'est le salut en Jésus-Christ. Il est mort pour moi, il est ressuscité pour que je puisse avoir la vie, la rédemption en Jésus-Christ. Et puis, une dernière chose, puisque vous savez ces choses maintenant, eh bien résistez-lui avec une foi ferme. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier maintenant, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te rendre grâce et je te remercie pour ta parole, parce que nous voulons en effet, Père éternel, eh bien, nous souvenir que, comme tu le disais hier dans cette prière sacerdotale, où toi-même tu t'adressais à ton Père céleste, eh bien, ta parole est la vérité. Moi, je crois à la vérité de la parole de Dieu. Moi, je crois à la vérité de l'Évangile. Je crois à ce que Jésus a dit, la vérité. Je crois que ces hommes qui sont, eh bien, des apôtres, qui sont en effet, Seigneur, des évangélistes, qui sont tes serviteurs d'hier et d'aujourd'hui, ce sont des hommes qui portent, c'est vrai, dans un vase de terre, un formidable trésor de vérité. Seigneur, donne-nous ta grâce, donne-nous l'amour de la vérité, pour être préservés, Seigneur, de toutes ces erreurs et de toutes ces ruses, de toutes ces doctrines piégeantes, dérivantes, Seigneur. Nous voulons te demander ton secours et ton aide. Et nous te bénissons, Seigneur. Tu bénis l'auditoire ce soir. Et moi, je te demande particulièrement de bénir ceux et celles qui demain, après-demain, peut-être plus tard, entendront également, eh bien, ce message, ce type de message, pour qu'ils puissent véritablement comprendre qu'en effet, nous avons un ennemi invisible qui agit tous les jours, jour et nuit, mais qu'il a été défait, qu'il a été vaincu. Que la croix du calvaire a triomphé de tous ses méfaits, de toutes ses ruses. Seigneur, je te demande d'éclairer les cœurs. Je te demande de donner de la perspicacité spirituelle et que nous puissions nous rallier dans ton camp. Oui, Seigneur, nous voulons nous souvenir simplement que l'apôtre Paul pouvait écrire dans sa longue vie d'apôtre et de pasteur qu'en effet, qu'il avait été appelé pour prêcher l'évangile et que Seigneur, il était aussi préposé à faire passer les hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan au royaume de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, par l'action de ton Saint-Esprit. Et nous te bénissons, sauve des âmes encore aujourd'hui. Délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, délivre-nous, Seigneur, de cet ennemi qui ne dit jamais son nom, mais qui est là, Seigneur, mais qui a été vaincu par la puissance de la croix de Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.